Chapitre 20. Les pèlerins parcourent le beau pays de Belac. Ils traversent heureusement le fleuve de la mort et sont admis dans la glorieuse cité de Dieu. Alors je vis que les pèlerins avaient dépassé le terrain enchanté et entraient dans le pays de Belac. La température en était douce et agréable, et comme leur route passait au milieu de ce beau pays, ils s'y arrêtèrent un peu pour jouir du spectacle qui s'offrait à eux. Le doux chant des oiseaux s'y faisait sans cesse entendre. Chaque jour, on y voyait éclore des fleurs brillantes de fraîcheur. La lumière du ciel y luit constamment, car il est situé entièrement hors de la vallée de l'ombre de la mort. Le géant désespoir ne peut pas y pénétrer. Et d'aucun endroit de cette contrée, on ne peut apercevoir le château du doute. Les voyageurs découvrirent à quelque distance la cité céleste. Ils rencontrèrent aussi plusieurs de ses habitants. Des êtres resplendissants de lumière viennent s'y promener fréquemment, car ce pays est sur les confins du ciel. C'est là que Dieu se réjouit dans ses enfants de la joie qu'un époux a de son épouse. Les pèlerins n'y manquèrent ni de blé ni de vin. Ils y trouvèrent au contraire, en abondance, tous les biens qu'ils avaient désirés pendant leur pèlerinage. Ils y entendirent aussi des voix sortant de la cité céleste qui criaient « Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur vient, et sa récompense marche devant lui. » Et tous les habitants du pays les appelaient le peuple saint, les rachetés de l'Éternel, etc. En traversant ce pays, ils éprouvèrent plus de joie qu'ils n'en avaient encore éprouvé. Plus ils approchaient de la cité céleste, mieux aussi ils pouvaient en contempler la beauté. Elle était bâtie en perles et en pierres précieuses. Les rues en étaient pavées d'or. Les rayons du soleil en réfléchissaient la gloire magnifique. De sorte que Chrétien et son compagnon de voyage soupiraient toujours avec plus d'ardeur après l'heureux moment où ils y seraient admis et gémissaient de n'y être pas encore entrés. Or, après avoir pris un peu de repos et de force, ils poursuivirent leur route, s'approchant toujours plus de la cité céleste. Ils vinrent à un lieu où il y avait des vergers, des vignes et des jardins dont les portes ouvraient sur la grande route. Apercevant le jardinier, ils lui demandèrent à qui appartenaient ces beaux vergers et ces jardins magnifiques. « Ils appartiennent au roi, leur répondit-il. Ils ont été plantés pour son agrément et pour la consolation des pèlerins. » Alors le jardinier les conduisit dans la vigne et les invita à prendre du raisin pour se rafraîchir. Il leur montra aussi les promenades et les bosquets favoris du roi, et ils s'y arrêtèrent pour dormir. Puis je les entendis parler pendant leur sommeil, plus qu'ils ne l'avaient fait dans tout le cours de leur voyage. Le jardinier, remarquant avec quelle attention je les observais, me dit « Qu'est-ce qui excite ainsi votre étonnement ? Il est dans la nature de ces vignes de causer, à ceux qui en mangent, un sommeil si doux qu'ils parlent alors même qu'ils sont endormis. » Les voyageurs étant réveillés, résolurent de monter à la cité céleste. Mais la réflexion des rayons du soleil sur la ville, qui était d'or pur, était si éblouissante qu'ils ne pouvaient encore la contempler qu'à l'aide d'un instrument propre à en diminuer l'éclat. Comme ils approchaient, ils rencontrèrent deux hommes, dont les vêtements brillaient comme de l'or, et dont le visage était resplendissant comme la lumière. Ces hommes demandèrent aux pèlerins d'où ils venaient, dans quels endroits ils avaient logé, quelles difficultés, quels dangers, quelles consolations et quelles jouissances ils avaient trouvées dans leur voyage. Les voyageurs répondirent à toutes ces questions et leur demandèrent de les accompagner, ce à quoi ils consentirent. « Mais, ajoutèrent-ils, il faut que vous obteniez l'entrée de la cité par votre propre foi. » Ils marchèrent donc ensemble jusqu'à ce qu'on pût apercevoir la porte. Or, entre eux et la porte, était une rivière très profonde, sur laquelle il n'y avait pas de pont. À cette vue, les pèlerins furent fort découragés, mais leurs compagnons de voyage leur dirent « Vous ne pouvez parvenir à la porte de la cité céleste qu'en traversant cette rivière. » Les pèlerins leur demandèrent alors s'il n'y avait pas d'autre voie pour y arriver. « Il y en a une autre, » répondirent-ils, « mais depuis la fondation du monde, il n'y a eu qu'Enoch et Élie qui ait eu le privilège d'y passer. Et personne n'y passera plus jusqu'à ce que se fassent entendre les sons de la dernière trompette. À ces mots, les voyageurs, et particulièrement chrétiens, commencèrent à perdre courage et à regarder de côté et d'autre, mais sans découvrir aucun chemin qui pût leur faire éviter la rivière. Ils demandèrent à leur guide si les eaux étaient partout également profondes. « Non, répondirent-ils, cependant nous ne pouvons vous être d'aucun secours à cet égard, car vous trouverez la rivière plus ou moins profonde, selon que vous aurez plus ou moins de foi au roi de la cité. » Alors ils descendirent dans l'eau, mais en y entrant, Chrétien commença à enfoncer et à crier à son compagnon de voyage. « J'enfonce dans les eaux profondes et les vagues passent par-dessus ma tête. »« Eh, bon courage, mon frère, » répondit Grand Espoir. « Je sens le fond et il est ferme. »« Ah, mon ami, » dit Chrétien, « les frayeurs de la mort m'environnent. Je ne verrai pas le pays d'où découle le lait et le miel. » Et en même temps, Chrétien fut saisi d'horreur et environné de ténèbres si épaisses qu'il ne pouvait rien distinguer devant lui. Il perdit connaissance, au point de ne plus pouvoir se souvenir ni parler d'aucune de ces douces consolations qu'il avait goûtées pendant son pèlerinage. Tout ce qu'il disait, au contraire, montrait quelle était la terreur dont il était saisi, et combien il craignait de périr dans la rivière et de ne jamais parvenir à la porte de la cité céleste. On voyait aussi qu'il était fort angoissé à la pensée des péchés qu'il avait commis avant et pendant son pèlerinage, et tourmenté par l'apparition de fantômes et de mauvais esprits. Tel était du moins ce qu'on pouvait inférer du peu de paroles qu'il prononçait. Grand Espoir eut donc beaucoup à faire pour soutenir au-dessus des eaux la tête de son frère qui, malgré ce secours, était tantôt entièrement submergé et tantôt se relevait à demi-mort. Grand Espoir s'efforçait aussi de l'encourager. « Mon frère, lui disait-il, je vois la porte, et des hommes prêts à nous recevoir. » Mais Chrétien répondait, « c'est vous qu'ils attendent, vous qui avez été plein d'espérance depuis que je vous connais. » « Mais vous l'avez été aussi, » répondit Grand Espoir. « Ah, mon frère, » répliquait Chrétien, « si mon cœur était droit devant Dieu, assurément il me tendrait maintenant la main. Mais à cause de mes péchés, il m'a laissé tomber dans ce piège et m'y abandonne. » « Mon frère, » répondit Grand Espoir, « vous avez oublié qu'il est dit des méchants, dans l'Écriture, « il n'y a point d'angoisse en leur mort, mais leur force est en son entier. Ils ne sont point en travail, et ne sont point battus avec les autres hommes. Les angoisses et la détresse que vous éprouvez dans ces eaux ne montrent point que Dieu vous est abandonné. Ce sont des épreuves destinées à faire voir si vous vous souvenez de tous les témoignages que vous avez déjà reçus de la bonté de Dieu, et si vous vous confiez en lui au milieu de toutes vos souffrances. » Chrétien réfléchit pendant quelques instants à ce que son compagnon de voyage venait de lui dire, et celui-ci ajouta, « Aie bon courage, Jésus-Christ te guérit. » À ces mots, Chrétien s'écria à haute voix, « Ah, je le revois maintenant. Je l'entends me dire, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et quand tu passeras par les fleuves, ils ne te noieront point. » Alors ils reprirent tous deux courage, et l'ennemi ne fit plus de tentatives pour les tourmenter pendant le reste de leur traversée. Chrétien ne tarda pas à trouver le fond, de manière à pouvoir marcher le pied ferme. Et comme le reste de la rivière avait peu d'eau, ils furent bientôt à l'autre bord, où ils retrouvèrent les deux êtres resplendissants de lumière qui les attendaient et les saluèrent à leur sortie de l'eau, en leur disant, « Nous sommes des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer notre ministère en faveur de ceux qui doivent avoir l'héritage du salut. » Ils s'avancèrent tous ensemble vers la porte. Or, il est à remarquer que, quoique la cité céleste soit située sur une haute montagne, les pèlerins la gravirent sans difficulté, parce que leurs deux compagnons les soutenaient, et que d'ailleurs ils avaient laissé derrière eux, dans la rivière, leur enveloppe terrestre. Ils montèrent donc avec beaucoup de vitesse et de facilité, bien que les fondements de la cité fussent élevés au-dessus des nues. Ils traversèrent la région de l'air, s'entretenant ensemble de la manière la plus douce et la plus agréable, se réjouissant d'avoir passé heureusement la rivière et d'être accompagnés par des êtres si glorieux. Ceux-ci leur parlaient de la gloire du séjour céleste et leur disait qu'il était impossible d'en décrire la beauté et l'éclat. C'est là, disait-il, qu'est la montagne de Sion, c'est là que sont les milliers d'anges et les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous allez maintenant entrer dans le paradis de Dieu, où vous verrez l'arbre de vie, dont vous mangerez les fruits toujours délicieux. Et quand vous y serez arrivés, vous serez revêtus de robes blanches, et vous jouirez de la présence du roi pendant toute l'éternité. Là, vous ne verrez plus ces choses que vous avez vues dans les basses régions de la terre, savoir la douleur, la souffrance, l'affliction et la mort, car les choses vieilles sont passées. Vous allez maintenant rejoindre Abraham, Isaac, Jacob et les prophètes, ces hommes que Dieu a retirés de tout mal et qui maintenant se reposent de leurs travaux et marchent dans la justice de l'Éternel. Les pèlerins demandèrent alors « Que ferons-nous dans ce saint lieu ?» Leurs compagnons répondirent « Vous serez consolés de toutes vos peines, et la joie succédera à toutes vos douleurs. Vous moissonnerez ce que vous avez semé, et vous recueillerez le fruit de vos prières, de vos larmes et de toutes les souffrances que vous avez endurées pour le roi pendant votre pèlerinage. Vous porterez des couronnes d'or et vous jouirez continuellement de la vue du Dieu saint, car vous le verrez tel qu'il est. Là aussi, vous servirez sans cesse avec louange, action de grâce et transport de joie, celui que vous désiriez servir sur la terre, mais au service duquel l'infirmité de votre chair apportait tant d'obstacles. Là, vos yeux contempleront avec délices la face du Tout-Puissant, et vos oreilles se réjouiront d'entendre sa voix. Là, vous jouirez de nouveau de la société des amis qui vous ont précédé dans ce séjour céleste, et vous accueillerez avec joie chacun de ceux qui vous y suivra. Là aussi, vous serez saints de gloire et de majesté, et quand le roi de gloire paraîtra au son de la dernière trompette, porté sur les nuées du ciel comme sur les ailes du vent, vous paraîtrez avec lui, et quand il s'asseyera sur son tribunal, vous serez assis à côté de lui. Et quand il prononcera la sentence des ouvriers d'iniquité, parmi les hommes ou parmi les anges, vous la prononcerez avec lui, parce qu'ils furent vos ennemis aussi bien que les siens. Enfin, quand il rentrera dans la cité céleste, vous y entrerez avec lui, au son de la trompette, et vous serez à jamais avec lui. Comme ils approchaient de la porte, une partie de l'armée des cieux vint à leur rencontre, et les deux êtres resplendissants de lumière qui les conduisaient s'écrièrent « Voici des hommes qui, pendant qu'ils étaient dans le monde, ont aimé notre Seigneur et ont tout quitté pour l'amour de son saint nom. Il nous a envoyé les chercher, et nous les avons amenés jusqu'ici afin qu'ils parviennent au terme de leur pèlerinage, et qu'étant admis dans la cité céleste, ils contemplent avec joie la face de leur Rédempteur. » Alors l'armée des cieux fit retentir les airs de ces paroles « Heureux sont ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. » En même temps, plusieurs des héros du roi, revêtus de robes blanches et éclatantes, vinrent à leur rencontre, entonnant des cantiques mélodieux qui retentissaient jusqu'aux extrémités des cieux. Ils saluèrent Chrétien et son compagnon de voyage par mille acclamations, au son bruyant de la trompette. Ils les environnèrent aussi de toutes parts, les uns marchant devant eux, les autres derrière, les uns à leur droite, les autres à leur gauche, comme pour les protéger dans ces régions élevées. Ils faisaient retentir les airs d'accords harmonieux, en sorte qu'il semblait que le ciel lui-même fût venu au-devant d'eux. Ainsi ils s'avançaient tous ensemble, et tout en marchant, les héros du roi témoignaient, à chaque instant, non seulement par leurs regards et par leurs gestes, mais encore par les accents d'une musique joyeuse, le plaisir qu'ils éprouvaient à voir au milieu d'eux Chrétien et son fidèle compagnon, et l'allégresse avec laquelle ils étaient venus à leur rencontre, en sorte que les pèlerins furent en quelque sorte dans le ciel avant d'y être parvenus. Car ils étaient absorbés dans la contemplation des anges et ravis d'entendre leur divin concert. Enfin, ils virent la cité céleste elle-même. Et il leur sembla entendre sonner toutes les cloches en signe de réjouissance de leur arrivée. Mais ce qui les remplissait surtout d'une vive joie, c'était la riante perspective de demeurer éternellement dans ce beau séjour et de vivre à jamais avec ses bienheureux habitants. Quelle langue ou quelle plume pourrait décrire la joie ineffable et glorieuse dont leur âme était remplie? Quand ils furent arrivés à la porte de la cité, ils y lurent cette inscription écrite en lettres d'or. « Heureux ceux qui font ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Alors les anges, resplendissants de lumière, leur dirent de frapper à la porte. Ils obéirent, et aussitôt, Hénoch, Moïse et Élie s'avancèrent pour regarder par-dessus la porte. « Ce sont, leur dit-on, des pèlerins qui sont sortis de la ville de perdition, à cause de l'amour qu'ils portent au Seigneur du lieu. » Les pèlerins firent voir les passeports qu'on leur avait donnés au commencement de leur voyage, et on les porta au roi, qui, après les avoir lus, dit « Où sont ces hommes ?» On lui répondit qu'ils attendaient devant la porte. Et le roi dit « Ouvrez les portes, et la nation juste et qui garde la vérité entrera. » Les deux pèlerins passèrent donc le seuil de la porte, et au moment où ils entrèrent dans la ville, ils furent transfigurés. Et on leur mit des vêtements qui reluisaient comme l'or. On leur donna aussi des harpes pour célébrer les louanges du Seigneur, et des couronnes qu'ils devaient porter comme une marque d'honneur. Toutes les cloches de la cité recommencèrent à sonner en signe de joie. Et il fut dit aux pèlerins, « Entrez dans la joie de votre Seigneur. » Et ils se mirent eux-mêmes à chanter à haute voix, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire et force au siècle des siècles. » Au moment où l'on ouvrit les portes pour faire entrer les pèlerins dans la cité, je m'avançai pour regarder, et je vis que la sainte cité brillait comme le soleil. Les rues étaient pavées d'or, et une foule d'hommes s'y promenaient, ayant des couronnes sur la tête, des palmes à la main, et portant des harpes d'or pour s'accompagner, en chantant les louanges de Dieu. On voyait aussi des séraphins ailés qui répétaient sans cesse « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Ensuite, on referma les portes. Et, ravi de ce que j'avais vu, je me souhaitais au milieu de cette bienheureuse multitude. Or, après avoir considéré toutes ces choses, je tournai la tête pour regarder derrière moi, et j'aperçus Ignorant qui s'approchait du bord de la rivière. Il la traversa plus promptement et avec beaucoup moins de difficulté que ne l'avaient fait les deux pèlerins, car il trouva sur le rivage un batelier nommé Vain Espoir qui le fit passer dans son bateau. Puis il monta la colline et s'avança vers la porte, mais il y vint seul, et personne n'alla au-devant de lui pour l'aider ou l'encourager. Quand il fut devant la porte, il vit l'inscription qui s'y trouvait, puis il se mit à frapper, ne doutant pas qu'il ne fût admis sans difficulté. Mais les hommes qui regardaient d'en haut, par-dessus la porte, lui demandèrent d'où il venait et ce qu'il voulait. « J'ai mangé et bu en présence du roi, leur dit-il, et il a enseigné dans nos rues. » Et ils lui demandèrent son passeport, afin qu'il puisse le montrer au roi. Il fouilla dans sa poche pour en chercher un, mais n'en trouva pas. « N'en avez-vous point ?» lui dirent-ils, et il garda le silence. Alors ils allèrent prendre les ordres du roi, qui ne voulut pas aller voir Ignorant, mais ordonna aux deux anges resplendissants de lumière qui avaient amené Chrétien et Grand Espoir dans la cité céleste, d'aller le prendre, de lui lier les mains et les pieds, et de l'emporter. Ils le prirent donc, et le conduisirent, à travers les airs, à la porte que j'avais vue dans le flanc de la colline, et le firent entrer dans le chemin qui y aboutissait. Alors je vis que de la porte de la cité céleste, tout aussi bien que de la ville de perdition, il y a un chemin qui conduit aux enfers. Ensuite je me réveillai, et voilà, c'était un songe.